Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, une émission, un programme, tous les 15 jours en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron. Et l'ADAVEM, on le rappelle, c'est l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Et avec moi dans les studios pour ce 7e numéro, Justine Lacombe et Lucia Vintila, toutes deux médiatrices familiales à l'ADAVEM de l'Aveyron, médiatrices familiales diplômées d'État, on le rappelle. Bonjour mesdames.
Bonjour David.
Bonjour David.
Être parent après la séparation, ça va être le thème cette semaine avec toutes les deux. Ouais, être parent après la séparation, il y a un genre de paradoxe dans la formulation. Et pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit, Lucia.
Exactement, on a choisi ce thème parce que les parents, pendant leur couple, quand ils forment un couple, bah, ils savent être parents.
En général,
oui. On est optimiste, d'accord?
Ouais, ouais.
Mais après la séparation, ils oublient. Ils croient que seulement eux, ils ont les droits sur les enfants. D'habitude, un divorce ou une séparation sont des moments qui sont difficiles, sont des moments qui ramènent beaucoup de souffrance dans le couple. Ils laissent beaucoup de blessures, de colère, de non-dits. Et le conflit, ça s'installe. Et l'intensité et l'ampleur de conflits, ça tient aussi de leur capacité de résoudre cette différence. C'est qui souffre le plus? C'est pas la maman, c'est pas le père non plus, mais sont les enfants, qui sont pris exactement dans leur conflit.
Oui.
Et pour ça, le législateur, il essaye d'établir un équilibre parce que l'enfant, après la séparation, il a besoin de tous les deux parents. D'accord? Et depuis quelques années, le législateur a mis en place la résidence alternée. Qu'est-ce que ça signifie que ça? C'est-à-dire que l'enfant, il peut résider une semaine avec papa et une semaine avec maman.
Ouais.
Donc, tous les deux parents, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers l'enfant.
La garde alternée, c'est devenu la règle? Parce que moi, par exemple, ma génération, je suis enfant de parents divorcés, ouais, c'est ça, et donc vieux hein, maintenant. Et quand mes parents divorcés, moi à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de garde alternée, c'était la mère à garder les enfants. Moi j'étais avec ma mère, et une fois par semaine, on allait chez notre père. Moi, c'était ça la règle à mon époque.
C'était ça la règle à l'époque, mais en 2002, avec la loi de 4 mars 2002, la règle que tu as connue, ça a changé.
D'accord.
Et ça a mis en place cette résidence alternée. Et aussi, suite à ça, il vient se naître le terme de coparentalité. C'est-à-dire que maman et papa, ils doivent respecter l'intérêt d'enfant et tous les droits que l'enfant il a.
Ouais.
Et ils doivent collaborer ensemble pour le bien et l'intérêt de l'enfant.
Ouais, ça ne va pas être toujours facile.
C'est pas toujours facile.
Suivant comment la séparation ou le divorce s'est fait.
Exactement. Et en tout cas, s'il y a un divorce qui est à l'amiable, là, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes interviennent au moment quand les parents sont en grand conflit, en désaccord, quand ils essayent de faire alliance avec l'enfant contre l'autre parent.
Eh oui, Tiens, petite question, peut-être juridique plus ou moins, mais enfin juridique à mon niveau, hein, donc ça vole pas bien haut. Vous faites une différence entre divorce et séparation, c'est-à-dire divorce, il y a la situation des enfants. Hein.
Oui, c'est une, si tu veux, c'est une différence.
Ouais.
Les personnes qui sont mariées peuvent divorcer,
ouais,
et les personnes qui ne sont pas mariées peuvent se séparer, d'accord, ouais. Parce que maintenant, on a passé de la famille traditionnelle femme-homme,
ouais,
exactement, à la famille monoparentale, par exemple, hétérosexuelle, la famille où les parents ne sont pas mariés, ils sont unis seulement dans la vie maritale, au pacsé. Donc on a une diversification, si tu veux, de la famille.
Et en ce qui concerne la législation, quand on n'est pas marié, mais qu'on se sépare, on a les mêmes obligations qu'un couple qui se sépare après avoir été marié légalement, je parle, tu sais, dans les trucs juridiques.
Oui, bien sûr, envers
les enfants.
Dis,
oui,
concernant les enfants, bien sûr, quand on est parent, indifférent qu'on était marié, pacsé, séparé.
Non, on ne peut pas dire, allez, moi, je me casse, mon débarras, merci, non, je suis, c'est comme si ça ne marche pas.
ça marche pas comme ça, non.
Première question, peut-être Lucia. Donc, qui c'est le chef? Qui c'est le patron? Qui c'est qui décide pour les enfants?
Mais il n'y a pas un chef, si tu veux.
Ah bon?
Tous les deux parents doivent prendre les décisions concernant les enfants, doivent prendre les décisions importantes pour les enfants. L'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale, il est de manière conjointe, c'est-à-dire que les deux parents, ils ont les mêmes droits et l'obligation, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant quelques grands thèmes. La scolarité, la santé, les sports dangereux, les activités extrascolaires et la religion. Donc ici, le parent doit avoir l'accord exprès et écrit de l'autre parent.
Des deux? Ouais, alors, oui. À deux, le problème, c'est qu'il y a la majorité, c'est 50-50, quoi. Je veux dire, c'est un et un. Donc, parce qu'il faut se mettre d'accord, on n'est pas toujours d'accord.
Il faut se mettre d'accord, et s'ils ne se mettent pas d'accord, ben, on intervient.
Ah,
c'est pour ça la médiation familiale. Mmh. Ou s'ils ne souhaitent pas venir en médiation, parce que, comme on a dit dans d'autres émissions, la médiation, c'est un procédé volontaire qui implique le consentement libre et éclairé. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir en médiation. Donc, si un des parents refuse à venir en médiation, mais il reste le contentieux, c'est au juge à trancher et à trouver une solution pour leurs différends, pour leurs problèmes.
Donc la coparentalité, c'est le terme en fait pour exprimer l'organisation après une séparation dans un couple pour le avec les enfants, quoi.
Exactement, et il est défini dans la loi, en code civil, à l'article 371-1, et je cite, un ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Voilà, bon, ça mérite d'être...
Les parents, ils doivent veiller à l'intérêt de l'enfant concernant la sécurité, la santé, la scolarisation et tout ce que ça joue autour de ses besoins. Mm-hmm. Des fois, c'est vrai qu'il y a des parents, à cause de la distance, ils ne peuvent pas exercer l'exercice de l'autorité parentale comme il faut.
Bah
donc,
ouais,
on ne peut pas mettre en place une résidence alternée.
Ouais.
Mais il y a pas mal d'autres variantes et l'enfant peut bénéficier de tous les deux parents. Dans la loi, la coparentalité, les parents, ils peuvent demander à l'enfant qu'est-ce qu'il souhaite, rester avec maman ou papa.
Oui.
Donc, en fonction de l'âge, il peut prendre des responsabilités, si tu veux, mais il ne prend pas la décision, d'accord?
D'accord, il donne juste son avis.
C'est exactement, on demande l'avis d'enfant, mais c'est le parent qui va prendre la décision.
Mmh. Donc, on dit bien les parents qui prennent la décision et qui prennent d'une façon générale, même séparés ou divorcés, les décisions. Tout doit être pris en commun.
Exactement.
Bon, alors pris en commun sur... les grands thèmes que tu nous as décrits un petit peu plus tôt, les grands thèmes importants autour de la vie de l'enfant, les choses générales. Mais bon, la vie n'est pas faite que de grandes choses générales et de grands principes. Il y a le quotidien, il y a peut-être des...
Il y a des petites particularités, si tu veux. Et on
faut à chaque fois appeler son ex, eh, tiens, je veux lui mettre un blouson rouge, est-ce que tu es d'accord sur la couleur du blouson?
Non, ça, non. Chaque parent, qu'est-ce que ça se passe dans sa semaine concernant les choses quotidiennes,
voilà.
Donc les actes usuels, si tu veux, parce qu'on le nomme actes usuels, ben, c'est à lui à décider qu'est-ce qu'il fait dans sa semaine. Par contre, il existe certains actes qui sont dits non usuels, qui impliquent l'accord de toutes les deux parents. Et cet accord, ça doit... il doit être demandé concernant, comme j'ai dit, la scolarité. Si, par exemple, il y a un parent qui souhaite que son enfant fait une école privée et l'autre il s'oppose, il doit bien négocier, discuter, voir pourquoi une dit non et l'autre dit oui, qu'est-ce que ça bloque et comment on peut accorder cette de désir. Il n'existe pas une législation claire sur les actes usuels et non usuels.
Ah, parce que c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi un petit peu
elle n'existe pas encore, peut-être que ça va venir, mais elle existe. Donc, il n'y a pas des articles de loi, si tu veux, mais il y a la jurisprudence.
D'accord, la pratique.
Exactement, c'est la pratique qui classifie les actes usuels de non usuels. Un acte usuel, il peut être réalisé par un seul parent, donc le consentement de l'autre parent, il n'est pas nécessaire, c'est seulement à l'informer. Et pour les actes non usuels, ben, c'est exactement à l'envers, on a besoin de les deux accords.
Tiens, question, Lucia, j'espère que je te mets pas dans la difficulté, mais je me suis retrouvé face à une personne qui se retrouvait dans cette situation-là, qui était en conflit avec son ex-épouse d'ailleurs, et c'est dans le cadre de la vaccination Covid, une vaccination d'enfants. Lui, il était pas content parce qu'on lui avait pas demandé son avis, enfin qu'on en avait eu rien à foutre, grosso modo. Et ils disaient que c'était illégal.
Si je me souviens bien, donc la vaccination obligatoire, c'est oui. obligatoire. Ouais. Donc les parents ne peuvent pas, une s'y s'oppose, ben c'est obligatoire.
Ouais.
Mais un acte qui peut être usuel, il peut être non usuel dans d'autres circonstances. Et Covid, exactement,
et
parce que Covid, on a besoin de l'accord. Mais si je me souviens bien, l'année dernière, quand c'était mis le problème de vacciner les enfants de 12 ans, c'est pas une loi, je sais pas, un décret qu'ils
ouais,
ont fait.
Ça,
voilà,
c'est pas une loi, mais il y a eu des dispositions qui ont été prises. Ouais.
Très bien ouais. avec les termes. C'était suffisant, l'accord d'un seul parent.
Voilà.
Mais c'était spécifique que pour ce type de vaccin, d'accord ? Par exemple, la circoncision,
oui.
ça peut être usuel et non usuel. Et je viens de t'expliquer en quel cas.
Ouais.
Donc, si c'est un rituel,
religieux,
il est non usuel.
Ouais.
Donc, on a besoin de l'accord de tous les deux parents. Mais si c'est un acte médical parce qu'ils mettent en danger la santé d'enfant, ben, il devient usuel et alors on n'a pas besoin
J'aurais mis le contraire, moi. Très bien. Justine Lacombe est aussi avec nous, bien sûr, dans les studios. Elle aussi est médiatrice familiale, diplômée d'État à la Daven de l'Aveyron. Et Justine, on va voir avec toi maintenant l'intérêt de la médiation familiale, justement, en ce qui concerne la coparentalité. Et là, il suffit pas, à mon avis, juste de pouvoir séparer les gens.
Non, voilà. Donc, c'est vrai que nous, en fait, on va accueillir des parents qui avaient un fonctionnement de parents en étant en couple, sous un même toit, et qui finalement avaient un fonctionnement un peu implicite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y avait des pratiques ou des valeurs éducatives qui n'étaient pas forcément parlées, qui étaient mises en pratique.
Mmh.
Voilà, ça peut être le cas, par exemple, je ne sais pas moi, d'aller chez le coiffeur ou d'aller chez le médecin, et c'était pas forcément demandé à l'autre, est-ce que tu acceptes que je l'amène chez le coiffeur ou est-ce que tu acceptes que je l'amène chez le médecin, puisque...
On peut comprendre quand même.
Ils vivaient sous le même toit, donc en fait, c'était un fonctionnement qu'ils avaient, en fait.
D'accord, parce qu'après, tu vas me dire que quand on est séparé pour aller chez le coiffeur, il faut que je demande à mon ex ?
Non, je dis pas ça.
Ah bon ?
Mais je dis que pour certaines personnes, c'est important que l'autre personne l'informe, que l'autre parent informe qu'il souhaite amener l'enfant chez le coiffeur. Alors, encore pour une fois, pour revenir sur les actes usuels et non usuels, il n'y a aucune obligation d'aller demander à l'autre parent, quand il y a séparation, d'amener ou pas l'enfant, par exemple, chez le coiffeur.
Bien sûr.
Mais c'est pour montrer la difficulté qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que des parents qui avaient un fonctionnement en vain se retrouvent avec un fonctionnement qui est différent aujourd'hui avec la séparation.
Ah.
Et en médiation familiale, c'est aller venir questionner ça, aller venir voir comment, du coup, maintenant être parent avec cette séparation-là. Ça permet de venir interroger finalement les personnes sur quels sont leurs besoins en tant que parents, qu'est-ce qu'ils ont besoin que l'autre parent vienne demander, vienne donner l'information, jusqu'où va l'information. Parce qu'en effet, il y a l'autorité parentale conjointe avec des éléments obligatoires. Et après, il y a tout le devoir d'information de l'autre parent pour plusieurs autres actes du quotidien. Mais certains ne vont pas avoir le même curseur sur les besoins et les demandes par rapport, du coup, à ces différents actes du quotidien.
Et, oui,
et donc, c'est là où la question se pose, parce que beaucoup de conflits arrivent à ce niveau-là, parce que certains vont penser que ça va être important d'être informé de telle situation, et un autre parent, peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'être informé de telle situation.
Et oui, alors justement, pour toi, Justine, en médiation, il faut démêler un petit peu le... Parce que là, rien n'est clair à la base, puisque tout dépend des situations, de la vie de chacun. Bon. Et alors, toi, dans un premier temps, tu dois essayer de démêler le contexte.
Voilà, ben en fait, des fois, on peut partir d'une situation en particulier.
Toi, t'es allé chez le coiffeur, là.
Les parents, voilà, ben on a eu le cas du coiffeur, on a eu le cas de l'oreille des oreilles percées.
Ah là là, les oreilles percées, ça doit faire des débats.
Voilà, on en avait parlé la dernière fois.
Ouais.
Voilà, il y a plein de situations. Il y a aussi beaucoup la situation autour de la maladie et de la fièvre. On va dire qu'il y a des parents pour qui la fièvre est à partir de 38. Pour d'autres, ils vont s'alarmer à partir de 39.
Ah.
Certains parents ont besoin de savoir que l'enfant est malade, même s'il est chez l'autre parent, alors que l'autre parent n'a pas forcément ce besoin-là et n'a pas envie non plus d'informer l'autre parent. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut aller décortiquer un petit peu. Alors, on ne peut pas tout décortiquer parce qu'on ne peut pas passer non plus tout au peigne fin.
Ouais.
Mais des fois, on va partir d'une situation en fait, avec laquelle ils viennent, qui pose problème, ou d'une autre situation qui va être amenée en fait, en médiation. Et on va aller un petit peu décortiquer, essayer de comprendre quel est le besoin, en fait. Parce que la base, c'est ça, c'est quel est le besoin du parent dans cette situation-là. Et c'est important que chaque parent sache, en fait, qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important d'être informé, qu'est-ce qui est important d'être dit. Ça ne veut pas dire que ça va forcément être mis en place, mais c'est important que chacun puisse entendre...
Les choses soient dites, posées.
Voilà, s'il y a des choses qui sont vraiment essentielles pour un des deux parents, qui permet d'être rassuré dans cette coparentalité-là. Parce qu'en fait, il faut la reconstruire. Ils avaient construit une forme de parentalité de manière implicite ou explicite, et il faut tout reconstruire avec la séparation.
Parce que ce que tu nous dis là, ça peut correspondre aussi à des situations où la séparation, le divorce, c'est pas fait forcément en très mauvais termes, mais c'est juste le changement de la situation c'est qui ça. Amène à des incompréhensions, des malentendus, des quiproquos, de tout ce que tu veux. Et d'où besoin d'une médiation familiale, c'est bien voilà, ça ?
C'est ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a des parents qui vont prendre une autre positionnement, une autre place auprès de leur enfant. C'est-à-dire, bah, par exemple, un couple qui fonctionnait avec ou que la mère ou que le père qui gérait, je ne sais pas, les rendez-vous médicaux.
Ouais.
Parce que c'était dans leur organisation, c'était comme ça. Parce qu'il y en a un des deux qui travaillait beaucoup et l'autre avait fait le choix de moins travailler et s'occuper, par exemple, de cette démarche-là. Avec la séparation, la réorganisation va peut-être se faire différemment. Peut-être que ce parent qui ne s'impliquait pas a peut-être envie tout d'un coup de s'impliquer finalement un peu plus.
Oui, oui.
Mais l'autre parent qui avait cette habitude
d'être
toujours...
Bah non, tu ne prends pas mon... Bah oui, le...
Voilà, qui avait l'habitude d'avoir entre guillemets cette mission, ce rôle-là, a peut-être pas forcément envie de déléguer. Même si ça lui pèse peut-être de le faire et qu'il peut en râler, peut-être il n'a pas forcément envie de déléguer cette mission-là. Donc tout ça, il faut arriver à le réorganiser, à redéfinir les places en fait de chacun qui ont bougé du fait de la séparation. Et c'est pas toujours évident. Qu'il y ait conflit ou pas conflit entre les, entre les personnes. Après, il y a des parents qui s'entendent très bien, qui n'ont pas besoin de la médiation familiale. Mais des fois, la médiation familiale voilà, permet vraiment d'aller creuser des petits détails qui ouvrent sur des valeurs plus générales. Parce que finalement, on va pouvoir parler des valeurs éducatives qu'ils avaient peut-être en commun au départ, qu'ils ont peut-être plus. S'ils les ont toujours, ils vont peut-être avoir des manières différentes de les mettre en place. Et c'est là où c'est important d'aller vraiment vérifier qu'est-ce qui est important pour chacun d'eux et qu'au moins ce soit entendu. C'est pas forcément accepté et respecté par l'autre parent, mais au moins ça a été formulé une fois et chacun sait un petit peu à quoi s'en tenir dans la situation.
Et on rappelle que la DAVEM de l'Aveyron est ouverte à tous. Hein. Vous pouvez l'appeler ou venir vous voir dans vos nouveaux locaux, notamment.
Oui.
Vous êtes maintenant
c'est
en
ça.
Plein
on
centre-ville
est...
de Rodez.
C'est ça, un rue Séguy,
voilà.
À côté de la cathédrale.
Avec des horaires de bureau, mais de toute façon, tous les contacts, les informations, on peut les retrouver sur la page Facebook, les réseaux sociaux.
Tout à fait.
On tape à DAVEM 12 ou à DAVEM de l'Aveyron et on retrouvera toutes les coordonnées, les moyens de vous rencontrer à Rodez, chez vous dans vos locaux, au tribunal aussi, c'est possible, et pourquoi pas aussi dans d'autres lieux, à travers le département, parce qu'il y a des permanences dans différents lieux de notre grand département. L'ABC des médiations familiales sur CFM Rodez, c'est une deuxième partie dans quelques minutes. On va continuer sur le sujet, bien sûr, avec Justine et Lucia, autour du sujet être parent après la séparation, mais petite pause musicale, comme d'hab, avec une... notre DJ, notre programmatrice musicale qui a choisi la musique. Bon, là, on est dans le sujet. Hein. Lucia, tu as choisi un artiste regretté. Pas,
oui.
pas par tout le monde, mais par certains. En tout cas, il n'est plus.
Oui, et j'ai choisi cette chanson parce que ça marche très bien avec notre thème d'aujourd'hui.
Ouais.
Donc, c'est Michel Delpech avec Les Divorcés.
On pourra, dans les premiers temps, donner la gosse à tes parents. Le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuse. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi, en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue, malgré tout. sais, maintenant c'est passé. Mais au début, j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux. Que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue. Les amis vont nous questionner. Certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue. Malgré tout.
CFM Rodez, c'est l'ABC de la médiation familiale. Et dans ce septième numéro avec l'ADAVEM de l'Aveyron, la thématique, c'est être parent après la séparation. On continue d'en discuter avec Justine Lacombe et Lucia Ventila, toutes deux médiatrices familiales à l'ADAVEM de l'Aveyron. Et Lucia va s'intéresser maintenant aux thématiques peut-être qui peuvent être abordées en médiation familiale concernant la coparentalité, ouais, thématique au pluriel là aussi, hein, il y en a plusieurs.
Oui, parce qu'on a une palette très large de sujets, de thèmes qui peuvent être abordés en médiation,
et oui.
Comme l'organisation de la résidence des enfants.
Et donc c'est l'histoire d'une semaine sur deux ou
une semaine sur
cela,
deux,
les horaires.
Si ça s'est alterné, mais il y a pas mal d'autres de organisations. Par exemple, ça peut être la résidence habituelle chez maman ou chez papa, n'importe.
D'accord.
Et l'autre parent, il a un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, moitié de vacances.
Ouais.
Ou un droit de visite et d'hébergement élargi, donc 7 week-ends sur deux et la moitié de vacances. Et un mercredi ou un jeudi, où l'enfant peut rester les premiers 3 jours chez maman, les prochains 4 chez papa. Ouais. Donc ça dépend des besoins de chaque famille et de comment ils croient que c'est mieux pour eux. Ou il y a des familles que à cause de la distance géographique, un des parents, il ne peut pas voir souvent l'enfant.
Eh oui.
Il bénéficie d'un droit de visite, une moitié des vacances ou toutes les vacances.
D'accord.
Ça dépend. Tout c'est discutable, c'est à négocier, c'est à voir en fonction de leurs nécessités, de leurs besoins.
La après, résidence, donc, le sujet de la résidence des enfants après la séparation, c'est le motif principal d'embrouille, grosso modo. Ou ces trucs-là, maintenant, quand même, ça se passe relativement bien, on s'arrange, on arrive toujours à se débrouiller, quoi.
Mais il y a 3-4 points, donc top 1, 2, 3,
ouais.
Donc on va dire, on fait un top 5. En première, c'est oui, c'est la résidence,
c'est le top 1.
Des enfants. Mais peut-être je ne mettrai pas la résidence en première, je mette l'argent. La pension alimentaire, donc la contribution à l'éducation
et
l'entretien d'enfants, exactement.
Oui.
Et c'est ici qu'il y a des problèmes. Quand on doit sortir
d'argent,
on oublie qu'on a un enfant, qu'on a des devoirs envers lui et que cet enfant, il a des besoins et des nécessités en fonction de l'âge. Que les besoins qu'il peut avoir à 2 ans ne sont pas les mêmes besoins qu'à 17, par exemple, ou à 18, où intervient le célèbre permis de conduire qui se partage entre les deux parents normalement.
Et qui coûte une fortune.
Et ça coûte beaucoup, oui. Et des fois, le parent qui, une des parents, ne souhaite pas payer le permis. Et là, il y a des discussions.
Mais ouais. Non, tout et là, partager, et là, la médiation, elle a toute sa place parce que là, légalement, il n'y a pas d'obligation. Si jamais, non, je ne veux pas que tu passes ton permis, je ne te filerai pas les sous, on peut rien dire.
Si je ne me trompe pas, sur le permis, il y a une obligation de partage, oui. De partage de biens, de partage d'argent, pardon. Ouais. Mais après, sur d'autres dépenses dites exceptionnelles, il n'y a pas vraiment une obligation de partage. Ça laisse l'attitude et le bon sens des parents. La mutuelle, par exemple, ça peut se partager ou pas, ça dépend. C'est peut-être que maman, elle a une mutuelle mieux que papa ou à l'envers, et c'est elle qui prend en charge. Mais papa, il peut rembourser sur tout qu'est-ce que ça joue autour de les colonies de vacances, de dépenses avec l'enfant pour la scolarité ou pour l'éducation. Donc, les colonies de vacances ou le sport, et tout ça, ça peut se partager. Il n'y a pas une obligation de moitié-moitié, mais ça peut se faire moitié-moitié ou un quart. Ça dépend de pouvoir financier de chaque parent. Donc, ça, c'est un autre sujet qui vient souvent en médiation. Après, un autre, c'est la communication entre les parents parce que après que se séparent, tout ce qu'on a aimé au début, on déteste à la fin et on est en reproche. C'est comme ça la règle, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on oublie à communiquer et à dialoguer. Et on est tout le temps en reproche.
Entre les parents,
les parents exactement. Ils sont tout le temps en reproche, en désaccord.
Il t'a mis n'importe quoi comme vêtement. Enfin, on dit du mal des uns des autres, les enfants au milieu.
Exactement. Je ne peux pas prononcer tous les mots que ça se dise entre eux. Après, d'autres questions qui peuvent être soulevées en médiation sont les questions administratives. Comment on répartit les papiers qui sont importants, la carte d'identité, le passeport, le carnet de santé et tout ça. Des fois, un parent ne veut pas donner à l'autre le passeport et il vient à trouver une solution. Et j'ai eu un cas exactement sur cette thématique et ils ont trouvé un accord. Maman, elle garde le passeport et papa, elle garde la carte d'identité. Tu vois?
D'accord. Donc, pourquoi pas, oui.
Après, il peut changer.
C'est toujours mieux couper tout en deux et faire moitié-moitié. Parce que là, on aura un souci avec les papiers. C'est sûr.
Un autre thème, c'est, si tu me permets, l'organisation du passage d'enfant d'un parent à l'autre.
Ah, donc, la transition, le lieu, comment ça marche, comment ça tu viens à la maison, payer de la porte,
À l'école, ça dépend. Donc ça peut se faire.
Tout ça, il faut ça.
Les valeurs éducatives qu'ils ont chacun, parce que une peut-être ne partage pas les mêmes valeurs. Et d'habitude, un parent qui est un peu plus caractériel, si tu veux, il impose à l'autre parent que comment ça se passe chez lui, il doit se passer chez l'autre. Et ici, il ne doit pas se mélanger dans l'organisation de temps de l'autre parent. Et nous, on intervient évidemment ici. On essaye de voir quelles sont les valeurs, les besoins et comment on peut les travailler. Ça, en grande ligne, sont thématiques.
Voilà, parce que grosso modo, donc il n'y a pas grand chose qui échappe à qui échappe, le mot n'est pas bien choisi, mais où les deux parents ne sont pas concernés, en fait, dans la vie d'un enfant, même après séparation. Quasiment tous les sujets, y a un accord qui est nécessaire ou qui c'est la meilleure des situations.
C'est le bon sens.
Ouais, c'est le bon sens, oui, t'as raison. Oui, tu fais bien de le dire, tu le résumes très très bien comme ça. Mais le bon sens, hein, c'est pas forcément évident, du coup, forcément, des fois, on a besoin de faire appel à de la médiation familiale. Notamment, bien sûr. On a vu toutes les thématiques concernant les.
Après des disputes, ils sont aussi sur les écrans, sur toute cette technologie, parce qu'on a passé de l'ère industrielle, si tu veux, la révolution de 70, les années 70, à l'ère digitale. Et les enfants sont beaucoup. Plus technique que les parents. Après, les parents, ils ont des valeurs et des croyances qu'on ne doit pas laisser l'enfant sur la tablette. Une, il est plus flexible, l'autre non. Et ça, c'est un thème de dispute.
J'imagine. Puis aussi avec les enfants, là.
Après, il y a pas mal d'autres sujets concernant la religion, les actes médicaux et tout ça, mais on va pas avoir de temps, pas tout dire en ligne, c'est ça.
Voilà, mais on a vu donc que c'est quasiment toutes les questions autour de l'éducation d'un enfant qui devaient être au moins discutées en commun après un divorce et une séparation. Séparation, justement, ça veut pas dire disparition, hein, on l'a évoqué, Justine. Oui, quand on est un enfant et chez l'un des parents, faut pas oublier qu'il y en a un autre parent ailleurs et faut pas faire comme s'il n'existait pas. J'imagine, c'est un peu l'idée.
Voilà, c'est ça. Donc c'est important, en effet, on peut aborder en médiation comment faire vivre l'autre parent en son absence.
Mais alors, est-ce qu'il faut le faire, forcément ou pas ?
Alors, pour le développement de l'enfant, c'est important, à un moment donné, qu'il ait conscience que l'autre parent, même s'il n'est pas là, il a une place, en fait, dans sa vie.
Ah, d'accord, ok.
Psychiquement, c'est important de lui faire cette place-là.
D'accord.
Il n'est pas obligé d'être là physiquement, comme d'ailleurs des parents qui ne sont pas forcément séparés, dont, je ne sais pas, un des deux parents travaille loin ou en déplacement. C'est important de faire cette place psychique, en fait, à l'enfant. Et là, encore plus avec la séparation.
Ouais.
Et notamment, encore plus aussi avec les séparations où l'enfant ne va peut-être, par exemple, qu'un week-end sur deux chez l'autre parent, ou même moins, hein, si jamais ils sont vraiment très loin géographiquement. Et c'est là où ça devient problématique, notamment quand les personnes sont en conflit, quand les parents sont en conflit et qu'ils n'arrivent pas forcément à distinguer la différence entre le couple qui était conjugal, donc leur place de homme et femme, et le couple parental de père et mère. Et quand ils sont encore sur cette difficulté à distinguer, on va dire, les différentes places, c'est compliqué pour eux de faire cette place justement psychique de l'autre parent auprès de l'enfant.
Je comprends.
Voilà, donc la médiation familiale permet vraiment de leur faire prendre conscience.
Mais alors comment tu fais pour, à part peut-être même mettre le portrait de l'autre personne sur le bureau, comment tu fais pour un peu inviter
Par rapport à l'enfant, tu veux dire ?
Ouais.
Comment le faire ?
Ouais.
Comment le faire exister ? Ben, c'est déjà de pouvoir mettre des mots sur, voilà, en fonction de ce que vit l'enfant, en fonction de, voilà, en disant, je sais pas, si tu veux appeler papa ou si tu veux appeler maman, ou là, bientôt, ce week-end-là, tu seras chez papa, chez maman.
Ah, okay.
Ça peut être, je sais pas, à travers des livres. Les livres sont un support aussi qui sont beaucoup utilisés pour parler de la séparation avec les enfants. Et puis, s'il y a un papa et une maman dans l'histoire, ça peut être de reprendre, ben, avec papa, toi, tu fais ça.
D'accord.
Voilà, ben, y a un livre qui est très bien fait où il y a un côté papa, un coup chez maman, et qu'est-ce qu'il fait chez papa, qu'est-ce qu'il fait chez maman pour montrer qu'il fait des choses différemment. Ça peut être voilà, des supports qui sont utilisés et où le parent dit ah ben, t'es avec papa, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes bien faire, comme dans le livre. Enfin, voilà, c'est arriver à faire une place à l'autre parent dans cet espace familial quand il n'y a pas le parent qui est présent.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça permet aussi de parler avec eux des communications téléphoniques et des éventuelles visites du parent pendant la présence chez l'autre parent. Ça permet d'aborder cette thématique-là.
Les moments où la personne amène l'enfant et la reprend, tu veux dire ? Ou
non,
juste, non, je vais faire coucou ?
Non, c'est-à-dire, quand l'enfant, il est par exemple chez la maman, chez sa mère, comment son père peut rentrer en relation avec l'enfant ? C'est-à-dire que si les parents sont en conflit, il faut quand même, malgré tout, que l'enfant puisse avoir, par exemple, un accès à son autre parent.
Oui, d'accord, ok, je
comprends.
Donc,
même s'il y a cette difficulté relationnelle entre les parents en tant qu'homme et femme, il faut arriver à trouver le moyen de permettre à l'enfant d'être en relation avec son autre parent, de ne pas être, on va dire, mis à mal dans cette relation-là du fait de leur problématique d'adulte.
Ouais, mais comment on équilibre un petit peu les choses ? Parce que si le papa ou la maman, peu importe, qui n'a pas l'enfant à garde pendant la période, dit bah moi je l'appelle 12 fois par jour. L'autre parent en face veut dire non, attends, arrête, tu le faisais déjà pas avant, pourquoi 12 fois par jour ? C'est non. L'autre il dit si je veux. Bah, et l'enfant dit si moi je veux bien avoir mon père au téléphone, bon, comment on fait là ?
C'est justement tout ça qu'on essaie de réfléchir. On parle encore une fois des besoins de chacun.
Ouais.
Il y a des parents qui vont avoir ce besoin-là, en fait, d'être dans un échange téléphonique régulier, alors très régulier.
Oui, ça existe.
Alors, il y en a qui le sont très au début. Voilà, des fois, il y en a qui vont le faire beaucoup au début, puis finalement, petit à petit, ça va un petit peu s'échelonner. Et il y a des parents qu'on n'a pas du tout besoin. Donc, c'est justement tout ça qui se discute. Quels sont les besoins de chacun des parents par rapport au lien à avoir avec l'enfant pendant la présence chez l'autre parent ? Est-ce que c'est des SMS ? Est-ce que c'est des appels ? Est-ce que c'est le parent qui appelle ou est-ce que c'est l'enfant qui appelle de lui-même ?
D'accord.
Est-ce qu'il y a des échanges en visio, voilà, tout ça c'est discuté, ça permet justement de poser les choses.
Et l'idée, toi, c'est d'aboutir à un compromis ou à un consensus.
L'idée, c'est qu'ils arrivent à trouver, eux, leur propre solution leur convienne, en tout cas, et qui permet à l'enfant, justement, de pouvoir avoir un accès libre à ses deux parents sans avoir besoin, en fait, de se positionner. Le but, c'est vraiment ça, c'est que l'enfant puisse être libre dans son accès à ses parents. Et ça fait partie de ses droits en tant qu'enfant, au niveau de la loi, de toute manière.
Tu fais bien de le rappeler.
Donc, c'est aussi rappeler ça aux parents et c'est les remettre face à leur responsabilité de père et de mère et d'arriver vraiment à faire ce distinguo entre les différentes places pour permettre à l'enfant d'avoir cet accès libre comme l'indique la loi.
D'accord.
Alors, après, il y a des situations, je peux donner 2-3 exemples.
Oui.
Où, voilà, moi j'ai eu une situation où les parents voulaient changer l'organisation pour l'été. C'était le premier été où ils allaient vivre la séparation. un des deux parents voulait faire des périodes de 15 jours et l'autre parent ne voulait pas faire des périodes de 15 jours. Ils avaient l'habitude de faire une semaine, une semaine. En l'occurrence, c'était la mère qui était en difficulté et qui avait la sensation qu'il allait avoir un manque, que ça allait être compliqué, en fait, d'avoir accès à son enfant. Parce que quand c'est une semaine, c'est déjà compliqué, cet accès à pouvoir appeler son enfant librement. Donc, ça a été discuté en médiation pour dire, ben voilà, moi, je veux bien accepter les 15 jours, mais à la condition qu'il y ait plus d'appels que d'habitude, que je puisse avoir des visios pour avoir justement ce contact et éviter cette difficulté à vivre ce temps plus long. Voilà, donc ça peut être des exemples comme ça qui sont aussi abordés en médiation, de savoir qu'est-ce qui est acceptable pour chacun. J'ai eu aussi un papa qui est reparti dans un autre pays voir sa famille. Et la maman était d'accord sur le principe que son enfant puisse partir dans un autre pays, mais avec une peur malgré tout derrière que l'enfant ne revienne pas. Bah voilà. Oui. Alors même si elle a confiance en monsieur en tant que père, la peur reste quand même là. Et donc là, ça a été comment rassurer madame face à cette peur-là? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Et ça a été décidé en médiation que du coup, il y aurait plus de liens entre le père et la mère téléphoniquement parlant avec des échanges de photos. Et au final, quand ils sont revenus après le voyage, donc le papa était revenu avec son fils. J'étais pas très inquiète, la mère était très contente et a fait valoir justement le fait qu'elle avait remercié le papa d'avoir vraiment joué le jeu et que chaque soir elle avait vraiment presque plein de photos, plein de un retour quoi finalement de ce qu'avait vécu son enfant.
Bah oui, la médiation familiale, c'est bien utile, une preuve supplémentaire. Bon, par contre, il y a quand même des difficultés pour mettre ça en place. Tout ne va pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Non.
Comme on dit, c'est quoi les principaux problèmes, même si on en a évoqué quelques-uns.
Alors, en tout cas, il va y avoir la communication entre les parents qui peut être très compliquée. C'est-à-dire que s'ils ne s'entendent pas, même si on l'a déjà vu tout à l'heure avec ma collègue, comme quoi ils sont obligés, en tout cas, de s'informer ou obligés d'avoir l'accord de l'autre parent puisqu'ils ont une autorité parentale conjointe. Pour autant, si ils sont vraiment en conflit et qu'ils ne se supportent pas, c'est des fois même physique, ils ne peuvent pas être dans la même pièce, ils ne peuvent même pas recevoir un message de l'autre, c'est presque... ça les met dans des états de stress ou de colère ou d'énervement, alors que ça peut être juste en lien avec l'enfant, ça peut être vraiment des questions en lien avec les enfants. Mais juste de voir le prénom de l'autre personne s'afficher, ça peut réactiver beaucoup de douleurs et beaucoup d'émotions qui sont complexes à vivre. Donc là, c'est justement comment permettre cette coparentalité sans mettre chaque personne trop en difficulté dans ses émotions quand justement il y a les prénoms de l'autre ou voir l'autre. Donc, il y a des personnes qui vont prendre des décisions, et ça sert à ça, la médiation, arriver à trouver la décision qui va bien pour les personnes, sur comment se voir le moins possible, ou comment échanger le moins possible, tout en respectant son autorité parentale conjointe. Donc, il va y avoir des réflexions. Donc, certains parents mettent en place des cahiers de liaison, par exemple.
Ah oui, c'est pas bête.
Pour pouvoir aller de chez l'un à chez l'autre, et éviter les textos, éviter les mails, éviter les appels, en fait, qui peuvent réactiver... réactiver les difficultés qui peuvent les énerver. Donc, c'est passer par le cahier. Le cahier permet aussi d'avoir un certain recul parce que quand c'est écrit, il n'y a pas forcément l'émotion dans la manière de l'écrire. Il peut y avoir un recul sur l'émotion dans l'écriture et l'émotion dans la réception pour lire le message aussi. Et puis, comme justement, il y a une trace écrite qui peut circuler en fonction de comment l'organisation est décidée aussi, il faut réfléchir à comment ce cahier circule. Est-ce que c'est l'enfant? Parce que l'enfant, s'il est porteur du cahier, c'est quand même un sacré...
une responsabilité.
Sacré responsabilité. Donc, est-ce que c'est bien de le faire passer par l'enfant ou pas? Comment se fait passer le cahier? Enfin, il y a tout ça qui est réfléchi.
Bonne question.
Quelle est l'utilité de ce cahier? Qu'est-ce qui est mis comme information dedans? Et s'il y a d'autres informations urgentes, comment elles sont transmises? Voilà, donc c'est vraiment réfléchir sur comment... malgré tout, faire cette autorité parentale conjointe, cette communication, quand la communication est impossible, ou du moins très compliquée. Voilà, donc il y a ça. Et il y a aussi, par exemple, les passages de relais, réfléchir à comment se fait le passage de relais de l'enfant de chez le père à chez la mère. Si le passage de relais est trop compliqué parce que les parents sont en incapacité de se voir physiquement, est-ce que c'est l'école qui fait le relais? Est-ce que c'est la nounou? Est-ce que c'est le collège? Est-ce que c'est un tiers? Est-ce que c'est un espace neutre? Comme nous, du coup, on a les espaces rencontres, on a les passages de relais au sein de l'association. Voilà, c'est tout ça qui se réfléchit, en fait, pour ne pas mettre en difficulté et ne pas dégrader une communication qui est compliquée, dans l'espoir, à un moment donné, que cette communication puisse revenir, soit plus apaisée et permettre à un moment donné aux parents de ne plus avoir forcément besoin de ces personnes tiers, de ces relais ou de ces cahiers, et fonctionner directement en tant qu'être humain, on va dire, qui sont en capacité de relationner à peu près sereinement et de manière apaisée, notamment en présence des enfants.
Être parent après une séparation, c'est le thème de ce 7e numéro de l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes avec Justine et Lucia, toutes deux médiatrices familiales à la DAVEM 12, la DAVEM de l'Aveyron. Pour conclure quasiment, une petite histoire que va nous conter Lucia.
Je sais qu'on n'a pas beaucoup de minutes, donc j'essaie de le faire.
Vas-y.
Donc j'essaie quand même de le faire très court. C'est une histoire.
C'est une histoire vraie ou
C'est une histoire écrite par Jacques Salomé, qui est un psychosociologue et écrivain français.
Ah d'accord, ok.
Et elle fait partie de son livre qui s'appelle Conte à grandir, conte à guérir.
Ok.
Et cette histoire s'appelle le conte de petite Merle qui n'avait pas accepté la séparation de ses parents. Et ça, c'est une histoire que je le lis en général aux parents au moment quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certaines choses, quand ils sont en conflit, qu'ils ne se rendent pas compte que tout leur conflit, la séparation et toutes les répercussions qui viennent, les crises, les tout, la colère, ça fait mal, ils font mal à leur enfant. Et en cette histoire, Jacques Salomé rencontre la vie d'une petite Merle qui avait deux parents qui se sont séparés. C'est très symbolique tout ce qu'ils rencontrent parce qu'ils disent que cette Merle et les Merles en général, ils ont des sentiments comme les humains. Au moment quand ils sont très amoureux, ils crient cet amour, ils chantent dans la forêt, on peut entendre le beau chanson de la Merle. Mais au moment quand l'amour ça disparaît parce que d'habitude, ça se passe comme ça, dans beaucoup de cas. Les mères, ils sont vocaux, tu vois. Ils expriment leur mécontent, et ils se séparent.
C'est ça que j'entends, moi, dehors de chez moi, alors. C'est des mères qui divorcent.
C'est possible.
Ça fait un sacré boucan.
Exactement. Ouais. Et ce petit bébé, il est pris entre la séparation des parents. Il veut rester avec maman, il veut rester avec papa, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas dire à maman... je veux rester avec toi parce que papa, il va souffrir. Il croit que papa, il va souffrir. Mmh. Et à l'intérieur de lui, ça commence le chagrin de grandir dans son poitrine. Et son poitrine, ça commence à prendre forme d'une trou noir qui commence à le suffoquer.
Ouais.
Et à un moment donné, il ne peut plus et il se décide de parler à ses parents et de lui dire qu'il préfère que les parents restent ensemble, qu'il a pensé inclusivement à se suicider, à mourir, à couper les ailes.
Oh, bah dis donc. Bah, tu vas me faire pleurer.
Non, je ne sais pas de
ça
te faire pleurer, mais
histoire,
c'est, oui. Ça, c'est exactement ça sont les sentiments et les émotions des enfants quand les parents ne savent pas se séparer en bon terme et ne savent pas être parents après la séparation. Et à un moment donné, cette Merli-Merla, comme on s'appelle dans l'histoire, décide de parler en première à son papa en lui disant qu'il est malheureux, qu'il a voulu rester auprès de sa mère et son père, donc que les parents restent ensemble et qu'il ne peut pas vivre sans les deux parents. Et son papa lui répond qu'il est ému, il est très touché par ce qu'il vient de le dire, mais il doit savoir qu'il n'a pas quitté sa mère, mais il a quitté la femme avec laquelle il a été. Et que lui, il va rester toujours son père et sa mère, il va rester tout temps sa mère. Et en ce moment, Merli-Merla, il commence à se sentir un petit peu mieux, mais il a besoin de parler avec sa mère qui le rassure. Il rencontre aussi son malheur et sa mère le rassure. Elle dit qu'elle sera toujours à côté de lui pour le grandir, pour l'éduquer et son papa aussi. Donc, ils vont partager l'autorité parentale conjointe de ce qu'on a parlé. Et en ces moments, enfin, l'enfant, ça se sentit écouté, entendu de son chagrin. C'est tout noir, ça commence à se diminuer et il commence à ouvrir ses ailes et à voler, à crier, à chanter. Et il a compris maintenant que maman et papa resteraient pour toute sa vie, maman et papa.
Bon, une histoire qui se termine bien, mais j'ai eu peur. Hein, j'ai eu peur. Bon, je me suis dit, il va y avoir un chasseur là-dedans. Paf! Non, mais ça se termine beaucoup mieux que ça.
Ouais, on n'est pas...
On aime les animaux.
Exactement.
Une très belle histoire. Merci beaucoup, Lucia.
Avec plaisir.
On arrive à la fin de cette émission. Pour aujourd'hui, l'ABC de la médiation familiale, être parent après la séparation. On va se quitter en musique... Oh bah non!
Oui,
puisque tu pars.
Puisque tu pars.
Ouais, mais vous allez revenir.
On va revenir.
Bon, donc un jour, puisque tu pars, c'est le titre que tu as choisi, Lucia.
Oui, Jean-Jacques Goldman.
Ah, ben on va se
et merci pour tout ce temps accordé.
On se retrouve dans 15 jours avec toutes les deux, hein, Justine et Lucia, de la DAVEM de l'Aveyron. Et dans 15 jours, sortez la caisse à outils, parce que ça, la thématique, ça sera les outils du médiateur. Je ne suis pas très bricoleur, je vous préviens tout de suite, les filles. Ciao, ciao.
Au revoir, David.
Bientôt. À bientôt.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi. Intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Aujourd'hui c'est l'horizon dans ton exil.